Vous écoutez
RMC. Face à face.
Marie Chantret.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Proutot.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous avez été fondateur du GIGN, mais également fondateur et premier commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR. On va évidemment aborder avec vous les suites de l'attaque évitée de justesse à Washington il y a 24 heures maintenant. La troisième fois depuis 2024 que Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. On va revenir en détail sur le déroulé de cette soirée. Mais d'abord, vous, l'expert en sécurité, qui avez analysé toutes ces images avec nous en plateau, qui avez lu également, pour vous, y a-t-il eu des failles de sécurité? Peut-on ce matin l'affirmer quand, dans le même temps, on entend un président américain qui semble totalement dédouaner les services secrets?
Oui, effectivement, non seulement il y a eu des failles, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et c'est surprenant que le président lui-même, qui a été relativement critique quand sa sécurité était assurée par son prédécesseur, puisse considérer que simplement parce qu'il a changé la tête des secrets de service, ça irait mieux. Mmh. Le problème, il est endémique dans le système américain, c'est-à-dire que vous avez une succession de responsabilités qui fait que ce partage de responsabilité n'a pas un continuum qui permet effectivement d'être sûr que tout le monde est à la hauteur de l'événement en particulier dans la coordination entre les services.
Et on va y revenir longuement. Je dis semble dédouané parce que Donald Trump a accordé plusieurs interviews depuis hier et il le dit. Franchement, ça a été très rapide, je le cite. Ils l'ont arrêté net, il n'y a aucun doute. Il ne s'est jamais approché des portes, n'a jamais été sur le point de les franchir. Parlant du tireur présumé qui en effet n'a pas atteint la salle où se déroulait cette réception. Mais néanmoins, il y a, semble-t-il, des trous dans la raquette, encore une fois. Selon nos confrères du Washington Post, le dîner n'avait pas été classé au niveau maximal de protection réservé à de grands événements. Quand on voit qui était dans la salle, ça interroge.
Oui, tout à fait, d'autant que l'on sait que compte tenu à la fois du contexte international, mais également de la détestation que déclenche Trump autour de lui, de ce président spécifiquement, il y a, en plus avec ce que l'on connaît de l'histoire américaine, malheureusement, une répétition d'un certain nombre d'agressions de chefs d'État où la politique se gère à coups de fusil. Et on comprend pas que, ayant réuni dans la même salle autant de gens importants, même si effectivement, au départ, le dîner n'était pas un dîner organisé par la Maison Blanche,
par l'association des journalistes couvrant en effet la Maison Blanche, mais en coordination avec la Maison Blanche. Il y a une liste qui leur a été transmise et vous parliez des personnalités présentes. Là encore une fois, nos confrères de CBS le disent. À une même table, le président, son vice-président, qui, on le rappelle, ne sont pas autorisés à voyager dans le même avion. Ça, c'est le cas en France également. Mais des dizaines de ministres secrétaires d'État, est-ce que pour vous, la sécurité n'était pas au niveau?
La sécurité n'était absolument pas au niveau, même si sur la fin, ce que l'on voit, c'est-à-dire arriver l'unité spéciale du FBI qui assure la couverture, si effectivement l'attaque avait été plus importante, il y aurait eu une réactivité. Mais même le fait qu'un homme ait pu s'approcher aussi près, même si, comme le dit Trump, et ça semble le rassurer, au moins rassurer le fait que l'USS, le Secret Service n'a pas failli, il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à quoi, 30 mètres du président des États-Unis, même s'il n'a pas pu franchir l'escalier.
Parce que de nombreuses questions se posent aussi sur le profil du tireur et sur comment il a pu être dans ces lieux. On le rappelle, le Hilton, un hôtel qui accueille donc régulièrement des clients, des voyageurs. Il semblait être dans cet hôtel depuis plusieurs jours. Ce qui fait quoi? Que penser que les services secrets, les services de sécurité n'ont pas scanné les clients, n'ont pas repéré ce type de profil. On le rappelle, il avait sur lui au moins deux armes, des couteaux. Là encore une fois, pardonnez-moi, mais on est un peu interloqué par le fait qu'il ait pu posséder un tel attirail.
Oui, c'est non seulement surprenant, mais c'est invraisemblable de se dire que il n'y a pas eu, au niveau de la... les États-Unis qui sont un pays où tout le monde est maintenant fiché. Hein. Il y a vraiment, il est très difficile de passer à travers les systèmes qui sont mis en place.
Même si on le rappelle, la détention, le port d'armes est autorisé, l'achat également.
Oui.
Mais vous êtes fiché. Ça inclut finalement, voilà, ça a pour conséquence de vous ficher.
D'autant qu'il a, il les a achetés officiellement, parce qu'il aurait pu les acheter sur d'occasion et autres, ça arrive. Et à ce moment-là, il apparaît pas forcément sur les fichiers. Mais le fait de ficher les croiser les fichiers aurait dû permettre, normalement, au moins dans la partie qui est la partie renseignement, puisque la sécurité, c'est quatre niveaux, le niveau du renseignement, le troisième niveau qui est un niveau un peu plus large, le niveau qui a failli qui est le deuxième niveau, et le dernier niveau, celui qu'on appelle le premier mais qui est en fait le dernier, qui est le cercle qui est autour de l'autorité lui-même et qui a permis l'exfiltration du président et qui est le Secret Service. Oui. Mais normalement, tous ces niveaux doivent travailler en coordination.
Et c'est ce qui semble-t-il a manqué.
Voilà,
de plusieurs témoins reviennent des témoignages, la plupart du temps similaires, sur ces portiques de sécurité très classiques que l'on peut trouver dans les aéroports, par exemple. Mais finalement, de simples contrôles de sécurité seulement, quand on sait qu'était présent, encore une fois, le président des États-Unis, sans doute la personne la plus protégée, voire la plus menacée au monde, l'expert en sécurité que vous êtes dit... C'est insuffisant, là encore ?
Je dis que c'est, non seulement c'est insuffisant, mais c'est par rapport aux gens qui étaient, par exemple, au dernier contrôle dont vous parlez. On le voit très bien sur les images qui tournent en boucle, où on voit l'homme courir. Comment se fait-il qu'un homme ait pu arriver à un niveau où l'on sait qu'il y a le chef de, à un demi-étage près, en sous-sol, il ait pu descendre avec un fusil, sans avoir attiré l'attention de quelqu'un, et ensuite se mettre à courir et n'être intercepté, on le voit très bien. Il y en a 8 en plus.
Absolument.
S'il n'y en avait qu'un, bon, on pourrait comprendre. Mais il y avait au moins déjà le nombre. Mais le manque de réactivité de cette équipe est vraiment concernant.
Avec l'ironie que l'on connaît du président américain qui dit hier, il aurait pu être recruté par la Ligue de football américain tant il courait vite. Ça, c'est les observations de Donald Trump. Neutralisé sans être abattu. Là aussi, l'expert en sécurité que vous êtes, il va comparaître aujourd'hui devant un tribunal américain. C'est la doctrine, on tente de le neutraliser sans l'abattre, sans le tuer. C'est une force, là aussi ?
Alors, c'est une force chez nous, pas vraiment aux États-Unis. C'est ce qui m'a fait dire que, pour une fois, les Américains, en dehors de l'échec de l'interception de cet agresseur, un peu plus tôt, c'est-à-dire au moment du dernier contrôle, hein, qui était le dernier contrôle en fait, n'a pas été transformé en écumoire, donc il n'a pas été troué de tous les côtés, mais il n'y a eu que 5 coups de feu qui ont été tirés, et ça aurait pu être également, dans la maîtrise de l'événement, quelque chose de gravissime à l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de responsables de sécurité, chaque haute personnalité ayant sa propre équipe de sécurité. Il y a eu une maîtrise des armes assez exceptionnelle aux États-Unis pour pouvoir être souligné, ça c'est important.
Des coups de feu tirés, et donc vraisemblablement tirés par les Secret Service, ou en tout cas les services de sécurité, pas forcément donc de cet assaillant présumé, Cole Thomas Allen, 31 ans. Est-ce que pour vous, là encore, d'un regard extérieur, tout a été assuré? Parce que certains experts ont dit qu'il aurait pu porter sur lui, je ne sais pas, un gilet d'explosifs. Est-ce que là aussi, dans la manière dont ont réagi les forces de l'ordre à ce moment précis, tout a été respecté, ou vous sentez de la précipitation de leur part?
Ah non, mais là, ils ont été complètement surpris. C'est ça qui est la problématique.
Ouais.
C'est que on voit bien sur les images de ce dernier contrôle que, et ils ont contrôlé tous les gens qui étaient les gens les moins dangereux, c'est-à-dire les invités, et que pour eux, la fête était finie. Et il n'y avait personne à ce moment-là. Au moment où l'agresseur court, il tourne le dos à l'agresseur. Et c'est parce que le premier qui dégaine d'ailleurs, qui est sur la table, ou à mon avis devait regarder à l'intérieur des sacs si ça sonne avant, ou parce qu'apparemment ils présentaient à peine même leur invitation, il se retourne et il dégaine, mais c'est là où le président a eu ce trait d'humour en disant qu'il aurait pu être dans le football américain un quarter, c'est-à-dire celui qui court le plus vite, même si je suis pas spécialiste du football américain, parce que il a couru tellement vite que il est tombé, c'est ce qui a permis son interpellation et qui a fait que les, il y a eu que 5 coups de feu tirés, ce qui est quand même, je le rappelle, par rapport à ce que l'on a malheureusement tendance à voir aux États-Unis au niveau de la maîtrise du feu, quelque chose d'assez important pour le souligner.
En tout cas, notable, c'est notable, sûr.
Absolument.
Le profil du loup solitaire semble se préciser. Cole Thomas Allen, est-ce que ça vous semble plausible? Est-ce qu'une telle, ça semble préparé? Il s'est installé dans cet hôtel quelques jours avant de passer à l'acte. Il a donc réfléchi son acte et on apprend également qu'un manifeste qu'il a écrit de ses mains a été envoyé notamment à certains de ses proches. Est-ce qu'encore une fois, une telle attaque préparée peut être préparée par un seul homme?
Oui, je le pense, parce qu'on connaît trop ces profils qui sont des profils malheureusement que l'on qualifie de suicidaires et qui sont valables pas simplement à travers des gens qui ont un engagement politique. Je veux dire, un engagement politique avec des équipes armées et tout. Non, vous avez des gens qui, tout d'un coup, font une fixation sur un personnage.
Ce qui semble être le cas, considérant qu'aujourd'hui, et je le cite, Trump salit mes mains avec ses crimes, un manifeste aussi anti-chrétien, tout se mélange également. Ça semble être le profil qui se dégage de cet homme,
oui,
qui va comparaître encore aujourd'hui.
Absolument, avec en plus cette fascination pour les jeux vidéo, où il se construit un film, et d'ailleurs, on le voit dans le manifeste, il explique, ça va pas, ils savent pas travailler, ils auraient dû faire ça, ils ont pas fait ça, vous vous rendez compte, j'ai pu faire ça, mais je ne tuerai que telle ou telle personne. Enfin, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a, à travers le côté obsessionnel, déclenché chez lui ce passage à l'acte que l'on redoute tous dans nos métiers, parce que autant le renseignement, comme je disais, le quatrième cercle de sécurité qui est le renseignement, peut vous permettre d'anticiper, mais ça vous permet pas d'anticiper des personnalités comme celle-là.
Des individus qui passent au travers des mailles du filet. Les questions qui se posent désormais, c'est sur les conséquences de la sécurité de Donald Trump. Personne ne m'avait dit, là encore plein d'ironie, que c'était un métier aussi dangereux. Les mots du président américain hier, selon certains médias, Fox News en particulier, sa sécurité pourrait être massivement renforcée dans les prochains jours, voire jusqu'à porter un gilet pare-balles en public. Est-ce que là encore, ça vous semble une option envisageable ou à envisager pour le président américain, vous l'expert en sécurité que vous êtes?
Alors ça me paraît tellement ironique, je n'arrive pas à comprendre même qu'on ait pu présenter ça comme étant l'arme ultime, parce que d'abord, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les balles à grande vélocité, la plupart des gilets pare-balles, ce qu'on appelle second chance, que l'on ne voit pas, qui vous transforme pas comme vous l'avez vu avec les équipes spéciales, en particulier celle de secret service que l'on a vu arriver après coup, et ceux qui ont exfiltré le président, qui eux on appelle ça des second chance sous la chemise, les balles à grande vélocité ne peuvent être arrêtées que par les gilets lourds que l'on a vu avec les dernières
équipes. Ce qui n'est pas envisageable pour un président qui se déplace. Et par ailleurs, certains pointaient du doigt que en Pennsylvanie en 2024, il était alors en campagne, il a été touché à l'oreille de justesse, mais la tête était visée, et donc un gilet pare-balles n'empêchait pas finalement peut-être de le tuer ou de l'assassiner. Ça aussi, c'est une réalité.
Oui, non seulement c'est une réalité, mais déjà envisager que vous allez être obligé d'arriver à l'ultime protection, c'est-à-dire eh bien tout a failli avant, ça veut dire que l'ensemble du dispositif, vous n'y croyez pas. Donc, à mon avis, la réponse est une mauvaise réponse, un vrai problème.
Christian Proutot, d'un point de vue plus politique, vous qui avez été aux manettes, je le disais, et du GIGN et du groupement de sécurité de la présidence de la République en France, des failles semblent se dégager. Est-ce que pour vous, politiquement, eh bien, des conclusions doivent être tirées? Vous en parliez, Sean Curran, qui est le nouveau patron des Secret Service, nommé par Donald Trump, qui l'a d'ailleurs sauvé de cet attentat manqué en juin 2024, doit-il être limogé? Est-ce que pour vous, ça fait partie de la symbolique et des conclusions à tirer?
Alors, c'est tout le problème de la responsabilité que j'ai évoqué au début de notre entretien, qui fait que, aux États-Unis, cet empilage de responsabilité permet de dégager la responsabilité de Sean Curran.
Vous dites que ça les dissout, finalement.
Voilà. Oui, oui.
C'est ça aussi la conséquence politique.
Voilà. Et si les États-Unis veulent prendre en compte la problématique, elle est simple. C'est qu'il faut obliger les services à travailler entre eux. C'est un problème que nous, on a connu en France, qui est maintenant résolu depuis la création du GSPR, où c'est en priorité sécurité, le patron, celui qui est en charge de la sécurité du plus haut personnage, qui peut être en mesure de décider ce qui est mis en place et comment les services doivent fonctionner avec ensemble.
Et on verra du côté américain si des conséquences sont tirées. À vous, l'ancien patron du GSPR, encore une fois, aucune personnalité avant-hier ni invitée n'a été blessée. Seul un officier des Secret Service a été touché au gilet par balle, transporté à l'hôpital. Il est seulement blessé. Une image a retenu mon attention, peut-être aux téléspectateurs, de cet agent qui s'est interposé. L'assaillant n'était pas dans la salle, mais il prenait tous les risques. Oui. C'est ça aussi l'engagement. Profession garde du corps, sentinelle, une vie pour une autre. Quand vous signez pour être agent des Secret Service, vous risquez votre vie.
Voilà, c'est la réaction que l'on a normalement, ce qu'on appelle le premier cercle, hein, qui est soit le triangle, ils sont trois, soit cinq, le diamant. Et vous disiez que j'avais été le patron du GSPR, mais j'étais pas
de
le patron.
De la sécurité du président français, hein,
voilà,
précise.
Je n'étais pas le patron sur le terrain, mais les hommes que nous avons formés avec les officiers, dont Alain Le Carreau qui commandait cette unité, tout de suite a été un engagement qui pouvait conduire à perdre leur vie pour défendre le chef de l'État. Et ça, c'est l'engagement qu'ils avaient d'entrée.
Quand vous signez pour ce type de métier, de profession, vous savez que c'est le risque possible.
Absolument. Sinon, il faut faire autre chose et puis pas vouloir venir simplement pour avoir des Ray-Ban et une oreillette.
Christian Proutot, une toute dernière question sur l'analyse que vous faites de la situation. La visite de Charles III à Washington a été maintenue. On sait que la couronne britannique a été en lien direct avec la Maison-Blanche toute la journée d'hier. Une remise en cause d'une telle venue aurait dû être envisagée, selon vous. Est-ce que c'est légitime de la maintenir ?
Moi, je pense que c'est plutôt les Britanniques qui auraient pu se poser la question. Mais c'est une visite officielle, et vous le soulignez tout à l'heure, malheureusement. Ce dîner n'était pas, au départ, organisé par la Maison-Blanche. On n'a pas mis en place, ou peut-être on a laissé mettre en place un système qui n'a pas été supervisé par ce qu'aurait dû faire l'USSS,
le Secret Service.
Ils auraient dû vérifier qu'effectivement il y avait un continuum au niveau de l'efficacité des dispositifs de contrôle, et ça, à mon avis, ça n'a pas été fait, simplement parce que c'était pas une visite officielle. J'espère que dans le cas de la visite officielle, ils vont en prendre compte et que ça ne sera pas le cas. Je suis sûr.
Et on sait que de nos correspondants, la capitale américaine est très très protégée ces dernières 24 heures. D'un point de vue d'expert, juste un mot sur ces vidéos. C'est vrai que ça marque les esprits. À quel point on a pu suivre cette attaque limite en temps réel grâce au téléphone portable que chacun a dans sa poche. Est-ce que pour l'expert en sécurité que vous êtes, c'est utile ? Est-ce que pour l'enquête qui est en train de démarrer, c'est une arme essentielle ?
Écoutez, c'est une arme à double tranchant, bien évidemment, mais pour faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le rétex, c'est très utile, parce que au moins ça permet de mettre les points sur les i et dire voilà, ça n'a pas marché pour ça, ça et ça. J'espère qu'ils ont pas besoin, ils avaient pas besoin de ça pour s'en rendre compte.
Christian Proutot, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47, presque 47, sur RMC et BFM TV.